Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui, chers auditeurs, de recevoir Leïla Sebar pour son livre tout à fait passionnant qu'elle vient de publier et qui s'appelle « Voyage en Algérie autour de ma chambre » aux éditions, une très belle éditeur qui s'appelle « Bleu autour ». Alors, un petit mot tout de même sur Leïla Sebar, née en Algérie, d'un père algérien et d'une mère française, elle vit à Paris depuis longtemps. Et elle a publié des romans, c'est un écrivain ou une écrivaine, je ne sais pas comment on dit cela, même si nous sommes à l'Académie, mais c'est un écrivain très connu et de très belle qualité, dont la trilogie « Scheherazade » chez Stock et « La jeune fille au balcon au seuil », des recueils de nouvelles dont « Soldat au seuil »,« Le peintre et son modèle », Le ravin de la femme sauvage, des recueils collectifs dont C'était leur France chez Gallimard et Mon père, éditeur Chèvrefeuille étoilé, des récits dont Je ne parle pas la langue de mon père, c'est le titre de ce récit, Je ne parle pas la langue de mon père chez Julliard. Alors, précisons encore qu'aux éditions Bleu Autour, elle a publié quelques autres livres, j'en cite deux au hasard, Femme d'Afrique du Nord, carte postale 1885-1930, et j'ajouterai aussi, alors en collaboration avec Jean-Michel Bélorger et Christelle Tarot, et j'ajouterai aussi un autre livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Mes Algéries en France », « Journal de mes Algéries en France », et c'est un deuxième livre, et « Les femmes au bain », qui est un roman. Voilà pour une présentation assez courte de Leïla Sebar, mais j'ai le grand bonheur aujourd'hui, chère Leïla Sebar, de vous recevoir ici sur Canal Académie, qui est la radio internet de l'Académie française, et qui, comme maintenant vous le savez, est diffusée dans le monde entier, etc. Alors, dites-moi, ça a dû vous coûter beaucoup d'écrire ce voyage en Algérie autour de ma chambre. Ça a dû être pour vous à la fois quelque chose de difficile et quelque chose de très beau.
C'est le troisième volet d'une trilogie. Vous avez annoncé un titre, Mes Algéries en France, et ensuite Journal de Mes Algéries en France. Et c'est le même principe, c'est la même démarche de conjuguer texte et image. Des images avec un mélange des genres et le texte. Mélange des genres aussi. Et celui-ci se présente sous la forme d'un abécédaire, ce qui m'a amusé.
Ça, ça vous a amusé et ça nous a... Je me suis délecté.
Moi, j'aime beaucoup les abécédaires. Je me rappelle, quand mes fils étaient enfants, avoir brodé des abécédaires pour gagner la patience d'une mère institutrice avec les enfants sortant de l'école. Et il faut les suivre.
Vous êtes une brodeuse.
Il faut de la patience. Je ne suis pas brodeuse.
Non, vous n'êtes pas brodeuse.
Mais je me suis mise à ce genre de broderie. À travers l'abécédaire, c'était...
Alors, vous savez, il y a 1000 questions à vous poser, c'est vrai. Et j'ai été très ému, je veux dire, en lisant tout le livre et le prologue, pour commencer par le prologue, et où vous dites, par exemple, ce voyage en Algérie, enfin, c'est moi qui cite, c'est une sorte d'archéologie de mes fictions, dites-vous. Et il y a vraiment dans le prologue, chaque mot, évidemment, vous les avez, c'est ciselé, vous les avez choisis. Je lis juste deux phrases, ça devrait être presque vous qui devriez les lire. Toujours ce désir de savoir, deviner, supposer, soupçonner, voir et donner, avoir, entendre et sentir, chercher, rechercher, sans méthode ni système. Soupçonner quoi?
Je crois que ce soupçonner sur lequel vous insistez, vous avez raison. On dit des petites filles qu'elles sont curieuses. Vous vous rappelez l'histoire de Barbe Bleue, vous vous rappelez les petites filles qui ne sont pas toutes toujours sages comme les petites filles modèles.
Comtesse de Ségur que vous
voilà,
donnez
oui,
dans le livre.
Voilà, oui, que je lis, que j'ai lu et que j'ai relu avec plaisir quand même, enfin malgré tout le mal qu'on peut en dire. Et donc, les petites filles, me semble-t-il, et c'était mon cas, sont très attentives à ce qui se passe autour d'elles parce que... On ne leur en parle pas, on ne répond pas aux questions qu'elles posent toujours, et parce qu'elles posent trop de questions, je pense.
C'est vrai.
Et quand je dis soupçonner, ça veut dire que si on ne répond pas à vos questions, c'est qu'il y a quelque chose à cacher.
L'envers
et
du
qu'il
décor.
Y a, et qu'il y a du secret.
Ouais,
Alors quel est ce secret? C'est la chambre noire, c'est le cabinet noir, c'est le cabinet de Barbe Bleue.
Ah, très, très belle. Madame, je me demandais, oui, sous le... Est-ce qu'il y a eu un regard français sur vous, comme un regard algérien sur vous, dans la mesure même où votre père est d'Algérie et votre mère est de France? Est-ce que ce regard a été pesant ou non, ou pénible ou non, ou au contraire, qu'est-ce que vous pourriez me dire?
Je crois qu'on pourrait dire, enfin ce que je peux dire, parce que ça me concerne directement, c'est que les enfants nés dans l'Algérie coloniale d'un père algérien et d'une mère française n'étaient pas reconnus d'une certaine manière, ni par la communauté musulmane, ni par la société coloniale.
Ce que dit
et
Albert...
donc, je veux dire, c'était une position extrêmement déséquilibrante pour un enfant,
oui,
et
oui,
pour un adolescent.
Oui, oui.
Et effectivement, comme j'étais jeune adolescente et adolescente pendant la guerre d'Algérie, tout était renvoyé comme ça des deux côtés,
à la
fille de l'arabe ou à la fille de la française.
Vous vous souvenez des travaux de Albert Mémy,
oui,
notamment le portrait
bien
du
sûr.
Colonisé,
bien
et
sûr.
Cette formule qu'il avait qui était intéressante, c'est très difficile d'être assis entre deux chaises.
Oui, j'aime pas la formule.
Non, peut-être pas.
Je n'aime pas la formule, mais effectivement, il y a cet aspect-là en situation coloniale, c'est-à-dire situation où les relations sont des relations dominant-dominées, amis-ennemis, en permanence, la division.
Donc au fond, si je vous ai bien compris, même avant l'émission, vous ne croyez pas trop à cette possibilité d'une Algérie et d'une France fraternelle qui aurait pu exister si les choses s'étaient passées différemment. Vous n'y croyez pas trop?
Non, non. Non, non.
Non, 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 non. Au moins c'est clair,
non.
C'est clair et net.
Non,
mais
oui,
je pense que
c'est clair et net.
C'est clair et net. Et d'ailleurs, ça renvoie à cette... Alors, nous allons plonger encore plus dans le vif du sujet. Ça renvoie à ces merveilleux personnages qui émergent, enfin, ces personnages pleins d'humanité qui émergent tout au long de votre livre. Je rappelle Léla Sebar, Voyage en Algérie autour de ma chambre, aux éditions Bleu Autour, un livre à lire très important. Et ce personnage qui est en Corse, et qui s'est installé en Corse, qui habitait bien sûr en Algérie, je ne sais plus où d'ailleurs, et ce personnage, on lui propose à un moment donné de revenir, lui qui dirigeait 800 hectares, on lui propose de revenir s'occuper de 3500 hectares, et il ne veut pas retourner, parce qu'il a compris qu'il y a une page qui s'était refermée. Donc c'est un peu, vous accompagnez dans ce que vous venez de nous dire, ce personnage-là.
Oui, c'est le personnage du colon, le personnage typique.
Le bon colon.
Typique et typé.
Voilà, hein, le bon
du colon et du bon colon, effectivement. Roger Azopardi, que j'ai retrouvé à Calvi, en Corse, et qui a été colon pendant plusieurs années à la suite de ses parents. Je veux dire, c'est une famille inscrite dans la terre algérienne depuis longtemps, à Varnier, près d'Orléansville. Et il parle de ces années-là.
C'est assez beau,
avec
ce
beaucoup
dit.
De oui,
c'est
avec beaucoup de à la fois de conviction et de ferveur.
Il y aurait cru, lui.
Oui, oui, il y aurait cru.
Page 69 de votre livre,
oui,
je
oui.
précise.
Mais oui, oui.
Il y aurait cru.
Il y aurait cru. Comme d'autres ont pu y croire.
Oui, oui.
On peut y croire.
C'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question. Est-ce que vous pensiez que, mais visiblement, votre expérience étant ce qu'elle est...
C'est l'expérience de l'histoire, c'est pas la
puis
mienne.
Alors, ce livre, cher Léla Sebar, si vous me permettez de vous appeler ainsi, c'est un livre qui est plein de blessures, d'exil, mais c'est un livre qui est assez fascinant, je dois dire, pour quelqu'un comme moi qui n'a eu quasiment aucun lien avec l'Algérie, mais qui s'intéresse à aux relations humaines, etc. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que vous offrez aux lecteurs dans le monde, tous ceux qui parlent le français, qu'il y a au fond une Algérie, grâce à vous, totalement inconnue, et enfin totalement inconnue ou inconnue, me semble-t-il, qui n'appartient ni à l'Algérie française, ni aux partisans de l'Algérie algérienne d'aujourd'hui. Et ça, ça a été un des éléments de lecture. j'ai trouvé qu'on chemine dans un entre-deux, dans des secrets, dans des blessures, dans aussi des ravissements humains tout à fait impressionnants.
Moi, je pense que ce que vous dites là et qui me paraît juste, concernant le livre et le projet qui est le mien depuis que j'écris, c'est que je crois, par cette double appartenance qui est la mienne, en situation difficile dont on a parlé, je crois que j'ai un double regard et une acuité de regard particulière. Et ces méandres comme ça, cette complexité des relations anciennes entre l'Algérie et la France, et j'élargis l'Algérie à l'Orient et la France à l'Occident, ces relations-là sont, pour moi, extrêmement turbulentes et en même temps passionnantes.
Et alors cette turbulence, cette passion, ces passions, c'est évidemment lié aussi, nous y reviendrons tout à l'heure, mais on peut déjà un peu évoquer, à la situation du père et de la mère aussi, certainement.
Bien sûr.
Ces êtres que, à la fois acceptés par certains, refusés par d'autres, et qui fait intervenir quand même quelque chose d'assez magnifique quand c'est réussi. C'est quand même cette passion entre des êtres de milieux, de cultures, de pays différents, d'origine.
Oui, oui, oui. Je pense que ce qui me structure aussi, c'est cet amour assez exceptionnel entre mon père algérien musulman et ma mère française catholique. Ma mère, fille de propriétaires terriens paysans, et mon père, fils de citadins descendants du prophète. En tout cas, c'est la légende familiale. Et donc, je veux dire, tout est là pour qu'il n'y ait pas de lien.
Est-ce que vous avez senti vraiment toujours beaucoup de respect entre les deux, c'est-à-dire chacun respectant l'univers de l'autre, ou parfois un peu de tension, ou... Est-ce qu'il y avait, ce que je veux dire par là, pour parler clair, est-ce qu'il y avait parfois un monde qui essayait de dominer l'autre, ou pas vraiment?
Non. Non, ça, enfin, moi, je ne l'ai pas,
oui, vous l'avez pas ressenti
moi,
en tant
pas qu'enfant. Je ne l'ai pas senti dans l'enfance ni dans l'adolescence. J'ai toujours senti la même... passion, de la liberté, de l'indépendance, de la République. Bon, bien sûr, la République, c'était la République française.
Oui, bien sûr. Oui.
Et mes parents étaient d'accord pour l'indépendance algérienne.
Les deux,
les deux parents. Les deux. Ah, oui. Moi, j'ai jamais senti de conflit entre mon père et ma mère, ni sentimentaux, ni politiques, d'aucun ordre, mais vraiment. Alors que dans ce qu'on appelle les couples mixtes,
oui, c'était parfois...
ce couple que représentaient mes parents, c'est conflictuel. Moi, j'en ai connu qui était
d'ailleurs
très conflictuel.
En vous lisant, j'ai écrit ou j'ai pensé, il y a chez elle, chez donc Leïla Sebar, une Algérie du vrai souvenir, ça m'a beaucoup frappé, ça, de l'authentique, de la douceur, du partage contre la haine et la violence. Et même si la haine et la violence ont existé, en général, bien entendu, etc. Et alors, ce qui aussi m'a impressionné, c'est une question que j'ai un peu hésité à, même peut-être, j'hésite peut-être un peu à vous la poser, mais est-ce que vous ne traquez pas, peut-être, au fond, grâce à ce livre et au fond de vous, les traces d'une identité disparue, un peu comme les Juifs recherchent leurs traces dans les pays de l'Europe de l'Est? Et je me suis posé cette question.
Moi, je crois que quand on a vécu dans une situation historique problématique et qu'on a connu la guerre, l'occupation, l'exil, les camps, la prison, je crois que... Enfin, en tout cas, pour moi, la guerre est toujours là.
Ah oui,
je veux dire, la guerre est toujours là. Ça ne veut pas dire que j'ai souffert particulièrement de la guerre. Mais la guerre est présente chaque fois dans ce que j'écris. Les guerres contemporaines aussi,
pas seulement
la guerre d'Algérie. Toutes les guerres contemporaines, que je considère comme des guerres coloniales ou post-coloniales, souvent.
Bien sûr.
Guerre civile aussi. Et donc, la guerre, c'est la destruction.
Et oui.
La colonisation, c'est la destruction.
En partie.
En partie.
En partie, parce que vous êtes très nuancé.
Oui, bien
pas
sûr.
Pas mal nuancé dans
oui,
votre...
Oui, c'est vrai. Et l'exil est aussi, peut aussi être destructeur.
Oui.
Et donc, cette recherche des traces, comme vous le dites, pour des Juifs qui ont été expulsés de leur pays, pour des Français qui ont été expulsés d'Algérie aussi...
Oui, parce qu'il reste presque plus rien là-bas.
Il reste des traces.
Oui.
Il reste des traces.
Les ossements aussi dans les cimetières dont vous parlez.
Oui, ben oui bon, bien sûr.
Oui,
bien
c'est,
sûr.
C'est assez affligeant. Enfin, ça, c'est évidemment. Mais au fond, il y a beaucoup à dire. Mais moi, j'ai été très touché par. On a l'impression d'une. Est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes une sorte de notre Proust algérienne? Ou plus précisément influencé par l'Algérie. Est-ce qu'il y a un côté... je ne veux pas avoir l'air d'être trop doucereux en disant cela, mais il y a quand même par moments un petit côté proustien chez vous. Est-ce que ça, vous ne seriez pas d'accord avec cela ou pas?
Non, je ne suis pas d'accord avec... Enfin, je veux dire, je ne suis pas d'accord. Moi, Proust est un de mes écrivains préférés, que je lis et relis toujours, mais je ne me sens pas proustienne.
Non.
Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait un travail sur la mémoire qu'on est forcément proustien.
Non. Par contre, il peut... au détour de certaines lignes, de certains paragraphes, nous, le lecteur, où il y a certaines évocations, ce qui est plutôt même...
Moi, je veux bien.
Ce n'est pas... Oui, je ne pense pas que ce soit...
C'est plutôt flatteur.
C'est plutôt flatteur, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot paix, P-A-I-X ?
Difficile à dire, parce que ce qu'on voit et ce qu'on entend, en tout cas, dans ce qu'on appelle l'actualité... quotidienne, contemporaine, c'est plutôt la violence et la guerre.
Oui, oui.
Si on...
Mais si je vous disais faire la paix, est-ce que ça retentit davantage en vous, disons? Est-ce que...
Je me méfie.
Vous méfiez?
Oui.
Vous méfiez?
Oui.
Et par contre, la paix intérieure? La paix intérieure,
je crois que je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais, c'est ce que j'ai cru sentir en lisant votre texte. Et pourtant, d'extérieur, quand on est avec vous, on ressent quand même, vous n'êtes pas agité, je veux dire par là, excusez-moi de dire cela, mais vous êtes assez pacifiante, je dirais, tout en étant, on vous sent bien un peu sur vos gardes, mais bon, c'est normal, hein, c'est normal, etc. Alors, revenons un peu au livre, si vous voulez. Il y a tellement de choses que j'aimerais évoquer. Et je sais que là, nous approchons peut-être de la fin de notre première partie, mais vous avez quand même cet abécédaire qui est tout à fait enthousiasmant. Et j'aimerais tout de même le lire. Abécédaire, tout simplement. J'aime les abécédaires. Lettres et images. Ma chambre serait à elle seule bibliothèque abécédaire. L'alphabet arabe que j'irai chercher à Beyrouth, Damas ou Alep. Livre ancien que les colonisateurs n'auront pas pillé. Eh oui, les livres. Il y avait-il un abécédaire parmi les livres de l'émir savant? L'alphabet hébreu que j'ai offert à mon ami Rosie. L'alphabet cyrillique que les ancêtres de Lucien Igor Souleyman ont dessiné. Mère institutrice, j'ai brodé des abécédaires, vous en parliez tout à l'heure. J'ai brodé des abécédaires rouges, verts et or. Cependant que mes fils lisaient à voix haute les livres de l'école. C'est magnifique, hein, je dois dire, c'est magnifique. Alors, je crois que nous arrivons à la fin de notre première partie. Nous allons reprendre dans un petit instant cet entretien. Et est-ce qu'on peut dire de vous, chère Leila Sebar, que vous êtes une femme de fidélité? Est-ce que ça vous plaît qu'on vous dise ça de vous ou pas?
Ça me plairait.
Ça vous plairait? On ne le dit pas souvent?
Je ne sais pas. On ne me le dit pas comme vous le dites.
Je vous remercie infiniment.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Je suis avec Madame Leila Sebar, qui est l'auteur d'un nouveau livre magnifique que je vous conseille de vous procurer, qui s'appelle « Voyage en Algérie autour de ma chambre », abécédaire et aux éditions Bleu Autour. Et je dois dire, pour commencer la deuxième partie de notre entretien avec Madame Sebah, que c'est un livre que j'aime beaucoup, que bien entendu je garderai dans ma bibliothèque très personnelle. Et c'est un des livres, parmi les livres qui m'a le plus ému de ces dernières années, parce qu'il est à la fois très simple et facile, je dirais, à lire, et en même temps, il est plein d'érudition. Et pour donner un seul exemple d'un de mes prochains achats grâce au livre de Madame Leïla Sebah, j'ai noté, je ne sais plus d'ailleurs à quelle page, mais j'ai quand même noté un livre que je vais me procurer sur la révélation des secrets des oiseaux et des fleurs par le soufi Izzedine Al-Mughadassi aux éditions Alphée en 2007. Et je dois vous dire que ça m'a... je sais aussi que vous aimez les cigales. J'ai été un tout petit peu déçu d'ailleurs, mais j'ai eu une seule déception dans votre livre, une seule. Et je vais vous faire l'aveu, c'est que vous ne parliez pas assez des figuiers.
Mais voilà. Parce que j'en ai parlé dans le livre précédent.
Ah, oui. Alors écoutez, nous en reparlerons ensemble. Alors, vous voyez, c'est la seule déception que j'ai eue à lire en me disant, mais comment elle ne parle pas beaucoup des figuiers. Dites-moi, alors, pour sérieusement, ce voyage en Algérie est un très beau livre. La couverture est somptueuse, vraiment de belles couleurs rouges, etc. Et surtout, vous avez à l'intérieur une iconographie tout à fait exceptionnelle.
Oui, je crois qu'il y a plus de 200 illustrations
fantastique.
Qui sont disposées suivant la maquette en pleine page ou en vignette ou en demi-page ou en double page aussi. Et moi, ce qui m'a amusé aussi, c'est d'avoir du côté de l'iconographie cette diversité dans l'image. C'est-à-dire qu'il y a de l'aquarelle, il y a du lavis, il y a de l'encre de Chine, il y a des cartes postales, il y a des photographies, il y a les aquarelles que j'ai découvertes de Lizinka Poirel, par exemple, qui est une nancéenne qui a vécu en Algérie parce que son mari était polytechnicien et s'occupait des ponts et chaussées dans le pays. Et elle a voyagé et elle a peint sur le motif. Et elle a peint beaucoup, beaucoup d'aquarelles. Un album qui s'appelle Album d'Afrique, qui est aux estampes et que je suis allée voir. Et elle a peint des familles juives, elle a peint des femmes noires, parce qu'il y en avait beaucoup.
Vous en parlez d'ailleurs dans
le livre. Des femmes noires affranchies déjà, à ce moment-là.
Celles qui travaillaient pour les musulmans étaient parfois habillées de soie.
Toutes.
Pas toutes, mais vous l'avez dit, tout de même, certaines.
Beaucoup étaient dans la domesticité familles riches musulmanes, bien sûr.
Revenir à l'iconographie, elle est tout à fait exceptionnelle pour un livre de cette taille, parce que ce n'est pas un très gros livre,
non.
Vous aviez beaucoup dans vos archives personnelles,
bien sûr. C'est ce que j'ai pensé. Bien sûr, j'en avais un certain nombre.
Par exemple, au hasard, page 92, une très belle, c'est un tableau, je présume.
Oui.
C'est une huile nue rouge, 1973, huile de Édouard Pignon, collection Dominique Pignon. C'est tout à fait
beau.
Au hasard et beau. Et en dessous, vous avez. C'est très joli parce que votre livre est à la fois musical et coloré. Donc, il y a un côté tout à fait, je dirais, orchestre pour se plonger. D'ailleurs, vous voyez le chant des oiseaux tout à l'heure, côté orchestre. Et sous cette huile nue rouge d'Édouard Pignon, vous avez l'abécédaire Amam et à la page d'après, Arki. Donc, il y a à la fois la douceur, la violence, qui ne cesse point. Alors, il est très, très vrai que cette guerre d'Algérie a été pour vous, une blessure très profonde. Et en même temps, vous savez toucher les lecteurs que nous sommes avec votre description du village d'Aflou.
Alors, le paradoxe, c'est que je suis née à Aflou, effectivement. J'en ai parlé dans d'autres livres, mais je ne connais pas Aflou.
Vous ne connaissez pas Aflou ?
Pas du tout, non. Je suis née à Aflou.
Vous l'avez quitté à quel âge ?
Mon père avait été envoyé en relégation par les années Vichy à Aflou parce qu'il appartenait au Parti communiste algérien. Et donc, c'était une mesure de rétorsion politique. Et je suis née à Aflou, mes sœurs sont nées à Aflou aussi, mais mes parents ont quitté Aflou, je devais avoir 2 ans ou 3 ans. Et je n'y suis jamais retournée. Mais grâce à l'exil de beaucoup, beaucoup d'Algériens, parce qu'en France, il y a beaucoup d'Algériens, comme vous le savez.
Bien sûr.
J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'habitants d'Aflou. Et en particulier à Lodève. Lodève est une petite ville avec un très beau festival de poésie l'été.
Vrai.
Et à côté de Montpellier. Et à Lodève, j'ai rencontré aussi des femmes et des familles de harkis qui ont quitté Aflou. Et c'était des familles de tisserandes qui ont, à Lodève, eu l'occasion de travailler pour la manufacture des gobelins qui existe à Lodève pour Paris. Enfin, pour la manufacture des gobelins de Paris. Donc, il y a comme ça des rencontres assez extraordinaires à partir d'un mot.
C'est
Aflou.
C'est formidable.
Que personne ne connaît.
En lisant votre texte à Aflou, vous savez, ça c'est un peu chacun, j'ai comme pensé à ce film Hiroshima, mon amour. C'est assez curieux. J'ai fait ce rapprochement. C'est-à-dire un peu comment peut-on ou ne peut-on pas oublier l'Algérie, si vous voulez. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Et je pense, j'espère que ça ne vous choque pas.
J'aime Marguerite Duras.
Ah, donc vous voyez, je ne le savais pas du tout.
Si,
mais
si.
Voyez, donc c'est. Donc, ce qui est beau aussi, et ce que j'aime beaucoup dans cet abécédaire, n'oublions pas que vous choisissez donc vos lettres et bien entendu ce dont vous voulez parler, Colomb. Fanon, lu avec beaucoup d'intérêt.
Oui, Alice Cherki a écrit un beau texte à propos de Fanon, justement.
Était un personnage à la fois très décrié et très, très généreux comme personnage. Indochine, instituteur. Alors, instituteur, évidemment, vous connaissez. Marseille aussi.
Oui.
Ça vous fait vraiment penser à Alger, Marseille ou pas?
Oui, quand j'y vais, effectivement, il y a ce qu'on appelle les quartiers nord et puis même les quartiers au centre, autour de la très belle bibliothèque de l'Alcazar. Elle s'appelle l'Alcazar, elle est belle, très belle. C'est un quartier algérien, avec des Algériens. Et je connais bien un photographe qui s'appelle Yves-Jean Mougin, dont les photos figurent dans le livre, qui habite Marseille et qui a fait tout un travail sur les Algériens de Marseille, les minorités à Marseille, les Arméniens.
Et vous ne saviez pas qu'il était d'origine de l'Algérie?
Non, non, je ne savais pas.
Je l'ai lu dans votre livre, etc.
Du Maroc aussi, il a fait un beau livre sur Casablanca.
Donc Marseille, Louise Michel, Parmentier, oui, Louise Michel a fait un voyage en Algérie puis elle est morte très peu de temps après, d'ailleurs à Marseille, je crois. Parmentier, Rimbaud, Rêvé. À la page 154, tout de même rêvé, je vais me permettre de lire ce petit texte sur cet abécédaire rêvé. Je fais ce rêve. Je suis dans une ville inconnue. Je demande mon chemin vers l'hôtel ou la maison. Personne ne sait, personne ne veut me dire l'adresse, la direction, le nom de la rue, personne. Je suis seul, sans papier, sans argent, sans bagage.
Encore cette nuit, j'ai fait un rêve comme celui que vous venez de lire.
Vraiment ?
C'est étonnant, hein ? Ah oui.
Vous voyez ?
Vraiment, vraiment.
Ah bah écoutez, c'est Sherazade, je lis encore dans votre abécédaire, Sétif, évidemment. D'ailleurs, ce n'est pas un texte de vous, c'est une lettre.
Oui.
Timbre, voyage, j'ai trouvé aussi, il faut lire, chers amis, Colomb, voyage, il faut lire. Et vous serez surpris pour le dernier élément de l'abécédaire, se termine par Zob. Et
vous osez dire ce mot ?
Je n'ai pas. C'est dans votre abécédaire. Mais il faut lire ce petit texte.
De Roger Dadoun, c'est
de Roger Dadoun,
texte.
Tout
oui,
à fait, etc.
Drôle.
Il faut le lire, etc. Alors, je pense que ce qui, moi, m'a aussi énormément ému en lisant ce livre, et je crois que j'y suis attaché, je vous dis la vérité, parce que je ne pourrais pas parler de quelque chose si je ne ressens pas de l'attachement ou de la dilection, si vous me permettez, c'est qu'au fond, en lisant votre livre, ce livre, eh bien, on apprend à respecter les autres, à respecter l'autre. Et au fond, je pense que c'est une des leçons, ce n'est pas la seule, mais il y a ancré comme ça dans ce livre, comme vous aimez les voyages, il y a l'ancre, on lève l'ancre, etc. Eh bien, nous partons sur le bateau, nous sommes tous différents, et il y a ce respect des autres. Et ça, c'est peut-être la négation de la guerre et le retour vers la paix, peut-être.
Je pense que c'est grâce à mes parents. C'est grâce à mes parents, à la fois l'amour entre eux et le fait qu'ils étaient l'un et l'autre instituteurs. Je crois que la transmission de mes parents à moi et à mon frère et mes sœurs, c'est ces valeurs de tolérance, de respect, vraiment. Et le fait aussi qu'ils m'ont transmis cet amour du savoir, des livres. Et les livres nous apprennent aussi quelque chose, à la fois des autres, de la vie, du monde. Et même si ce sont des livres qui parlent de violence, je crois que c'est une arme.
Vous la réduisez, cette violence.
C'est une arme.
Vous la réduisez. Elle est là, elle est latente, c'est notre monde. Vous la réduisez. Et puis, vous savez, je crois finalement aussi que j'aime votre livre parce que j'ai l'impression qu'en le lisant, en l'ouvrant, j'ai l'impression d'être dans une pâtisserie. Et en voyant les images, je suis là en train d'admirer ce qui peut parfois apparaître comme des gâteaux. Et les mots sont absolument merveilleux, parce qu'il faut relire chacune de vos phrases, deux lignes, comme ça. Ben, tenez, je dis au hasard, c'est tout à fait le hasard. Comme à la radio, chanter Brigitte Fontaine avec Areski, pour adoucir l'ordre domestique impératif, la radio, les petites chansons, la musique en mémoire, Sylvie Vartan, etc. Je continue, 2 minutes 35 de bonheur, il y a longtemps, Pomme Reinette, la tarte de Lucien Igor Suleiman. Eh bien, vous voyez, la tarte de Lucien Igor Suleiman.
Voilà.
Eh bien, je parlais de pâtisserie, donc il y a un attachement formidable. Alors, pour, si vous voulez, pour, il faut bien s'arrêter à un moment donné, mais nous aurons certainement, je l'espère, l'occasion de nous revoir. J'ai pensé que c'est un livre qui est d'une douce brutalité, d'une brutalité douce. Parce que c'est vrai que, quand même, Sétif, quand même, tout ce qui a marqué terriblement l'Algérie, c'est là, on peut pas, on va pas s'amuser là-dessus à faire des bons mots, c'est terrible. Mais vous dépassez cela, comme vous l'avez bien montré dans, si vous voulez, ce texte. Et alors, il reste, et je crois que ce sera les derniers moments ensemble aujourd'hui, il reste quand même la belle image, la belle profondeur du père et de la mère.
Oui, et je voulais aussi, en accompagnement, parler de ses compagnes et de ses compagnons de mes routes algériennes, à qui j'ai demandé un texte manuscrit en lien avec l'Algérie. Et il doit y en avoir entre 40 et 50 environ, et qui font image en même temps.
Qui sont très pertinents.
Et
c'est vrai.
Pour moi, ça a été intéressant et important de,
oui, parce que
de les inviter.
Ce livre, c'est un livre qui est fantastique d'empathie. La liste de vos amis, de vos relations amicales est tout à fait impressionnante. J'ai été impressionné moi-même en l'index des noms. Très nombreux sont les personnes, voilà, compagnes et compagnons, dites-vous, de mes routes algériennes. Il y a au moins, d'un seul regard, au moins 30 ou 40 personnes. Vous disiez, je crois...
Vous parliez de fidélité, elle est là.
Voilà, elle est là, cette fidélité. Et c'est à tout votre honneur, c'est ce rassemblement des âmes qui ne sont pas mortes, si vous voulez, qui est important dans ce livre. Voyez, donc,
quel est le mot en québécois pour dire rassembler ?
Rapailler.
Vous voyez, c'est joli.
C'est vrai que c'est très joli. Et vous pensez à, bien sûr, Gaston Miron, oui, l'homme rapaillé dont nous parlions tout à l'heure, etc. Écoutez, encore un petit mot quand même sur votre père et votre mère et nous quittons.
Je pourrais dire que dans la situation profonde d'exil dans laquelle ils étaient l'un et l'autre et dans laquelle je me trouve aussi, ils m'ont tout donné.
Est-ce que leur combat était vain ? Non.
Non.
Voilà.
Non.
C'est ce qu'on peut dire.
Non.
Je vous remercie beaucoup,
merci.
Leïla Sebar. Ça a été vraiment, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas déjà Leïla Sebar, qui est quelqu'un de fort connu en France et dans le monde entier, il faut absolument vous procurer ce voyage en Algérie. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus ces dernières années. Je vais le garder précieusement. C'est vraiment, je dirais même, un livre de collection, tellement il est agréable, beau à l'intérieur, plein de ressources, d'enchantement. Et aussi, ce n'est pas un livre superficiel parce qu'il nous entraîne dans tout ce que ce monde a de difficile et de cruel parfois. Donc, pour finir, Leïla Sebar, Voyage en Algérie autour de ma chambre, aux éditions Bleu Autour. Merci beaucoup, Leïla Sebar.
Merci à vous.